si un jour nous devons refaire le parvis de notre temple, ce qui est en projet en plus, et que nous avions envie de faire comme pour certains temples où il y a un verset écrit sur le fronton, je crois que je proposerai celui-là. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni maître, ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Un verset choc pour bien témoigner de notre foi, puisque c'est une préoccupation actuelle. Comment dire ce que nous croyons à tous ceux qui nous entourent? Un petit peu comme ces joueurs de foot, j'entendais ça cette semaine, chrétiens, qui témoignent de leur foi à leurs coéquipiers et qui, sur leur messagerie de téléphone, après avoir énoncé leur nom, le fait qu'ils soient absents, qu'on pouvait laisser un message, ils glissent à la fin « Jésus t'aime ». Alors il faut bien comprendre que ce verset, qui serait peut-être à actualiser pour aujourd'hui, était en tous les cas un message choc pour l'époque de Paul. Ah, cher Paul, toi l'incisif, le passionné, l'extrémiste, tu nous offres ici, sans équivoque possible, sous ta plume fracassante, un message qui fait voler en éclats toutes les barrières de l'époque. Barrières raciales, religieuses, sociales, sexistes. Toutes ces barrières qui justifient des suprématies et même des oppressions les uns sur les autres. Alors là, nous sommes en train de penser dans notre tête, ah oui, là, lui, elle, ça, ceci. Mais je crois que nous sommes tous, un jour ou l'autre, à l'origine de ces exclusions, de façon consciente ou inconsciente. Vous ne faites plus qu'un en Jésus-Christ. Chaque jour qui passe nous démontre le contraire. Nous ne connaissons que trop de clivages, de racismes de toutes sortes, tout aussi douloureux et tenaces que ceux qui déchiraient les Galates. Et c'est là que nous sentons le fossé qui sépare l'espoir de la réalité. On sait que Paul s'adresse ici à cette communauté des Galates alors qu'elle traverse une grave querelle. Et cette phrase ne prend que plus de relief. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Le problème qui a empoisonné les premières communautés chrétiennes était le suivant. Les anciens juifs devenus chrétiens n'étaient pas d'accord avec les nouveaux chrétiens non-juifs, des gens qui étaient jusqu'ici des païens, donc des gens qui n'étaient pas circoncis. Alors, les uns voulaient qu'ils se plient aux anciennes lois juives, et les autres ne le voulaient pas. La question profonde qui était derrière était la suivante, est-ce que la foi suffit? Ou bien faut-il en plus pratiquer la loi juive? Faut-il en plus être circoncis? Et Paul répond, Abraham, qui est le père des croyants, n'était pas circoncis quand il a entendu les promesses de Dieu. Mais c'est parce qu'il a mis sa confiance en Dieu qu'il a été considéré comme juste. Et que Dieu lui a dit, « De toi, Abraham, sortira tout mon peuple, aussi nombreux que les grains de sable et que les étoiles dans le ciel. » Nous tous aujourd'hui chrétiens, mais nous tous croyants, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes ses héritiers, comme dit le texte aux Galates, nous sommes la postérité d'Abraham, une grande famille. Manon et Eva le sont devenus aujourd'hui par le signe du baptême. Et Paul dit donc que circoncis ou non, puisque nous sommes croyants, nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes ses héritiers et nous formons une seule et même famille en Jésus-Christ. Paul nous dit que nous avons un même sang, une même sève qui coule dans nos veines. Nous sommes un. Heureusement que tu es là, cher Paul, pour nous rappeler ce que finalement Jésus avait déjà dit et surtout avait fait de son temps. Rappelez-vous, que fait Jésus ? Jésus lutte contre la discrimination à l'encontre des Juifs et de ceux qui ne l'étaient pas. Jésus est celui qui va vers la femme que tout le monde veut lapider. Jésus est celui qui touche, celui que tout le monde considère comme impur et qui est rejeté. Jésus est celui qui entre dans la maison et qui partage la table de celui que tout le monde haït parce qu'il collecte l'argent et qu'il est un traître. Jésus, dans son ministère, n'a eu de cesse de cacher toutes ces barrières que les hommes érigeaient entre eux. Alors, est-ce qu'il faut dire, puisque Paul nous dit « nous sommes un », qu'il n'y a plus de différence entre nous ? Est-ce qu'il faut dire que, puisque nous avons la même foi en Jésus-Christ, nous n'avons plus d'identité ni de particularité ? Est-ce qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans une espèce de fusion ? Eh bien non. L'unité en Christ ne signifie pas l'uniformité, mais l'égal regard de Dieu sur chacun de nous. La différence, oui, parce qu'elle est enrichissante, parce qu'elle est vécue comme une complémentarité. Cela me fait penser à notre nouvelle église qui suscite parfois, quand je parle de ça, je vois certains paroissiens qui lèvent les yeux au ciel, qui froncent les sourcils. Notre nouvelle église qui s'appelle l'Église protestante unie, qui rassemble l'Église réformée et l'Église luthérienne. Ce n'est pas une fusion. Nous n'avons pas à nier notre particularité de réformée. Nous restons ce que nous sommes. Seulement, nous sommes unis avec d'autres chrétiens qui sont tellement proches de nous. Et je crois même que nous devrions aller encore plus loin. Mais nous sommes humains et les rapprochements sont longs, vous le savez. Alors, il reste quand même une question importante. Qu'en est-il de notre Église aujourd'hui ? Qu'en est-il de nous, chrétiens, en 2012 ? Est-ce que nous sommes fidèles aux exhortations de Paul ? Est-ce que pour nous, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme ? Et est-ce que nous sommes témoins de cela pour la société que nous sommes censés influencer ? Pour les situations des plus petits, les discriminations religieuses, raciales, sociales, nationales, forcent nous est d'avouer que l'Église n'est pas toujours conforme au modèle que Paul demandait. Songeons maintenant aux raisons d'État, à la violence justifiée au nom de Dieu, à l'esclavage moderne, à nos portes. Songeons aux intolérances à l'égard des cultures et des spiritualités qui diffèrent de la nôtre. Songeons même aux paralysies de l'avancée œcuménique. Songeons à tout cela. Comme je peux comprendre tous ceux qui repoussent l'Église, qui depuis des siècles et des siècles dit et ne fait pas, proclame d'un côté et contre-témoigne de l'autre, trahit le message libérateur dont elle est porteuse, qui ne cesse de faire la part des choses et de compromettre la crédibilité de l'Évangile. Frères et sœurs, Voici notre confession du péché, que certains d'entre vous peut-être attendaient tout à l'heure et qui n'a pas été dite. Seulement, et comme toujours, le Seigneur ne nous laisse pas nous enliser dans notre culpabilité. Chaque fois, à nouveau, sa fidélité nous pardonne et nous remet debout. « Allez, nous dit-il, et faites ce que je vous donne et que je vous ordonne. » C'est cet ordre qui a été entendu par Frédéric à la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus nous dit « Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. » Voilà ce qu'il nous demande. Jésus ne nous demande pas de battre notre culpe et de nous culpabiliser. Il nous demande de repartir et d'annoncer. Voilà l'annonce du pardon. Alors, cher Paul, toi, l'apôtre de l'extrême, qui nous énerve souvent, je devrais plutôt dire qui m'énerve souvent. Je ne suis pas gentille de vous mettre dans le même sac. Peut-être que vous aimez beaucoup Paul. Moi, il m'énerve souvent, parce qu'il est trop extrême dans ce qu'il dit. Pourtant, il nous enseigne aussi. Alors, Paul, nous te saluons pour cette parole que Dieu t'a inspirée et qui nous interpelle ce matin de manière tout aussi joyeuse qu'exigeante. Nous te remercions et à lui nous rendons grâce de ce que l'Esprit Saint trace par ton ministère, la voie vers une vie communautaire vraiment nouvelle, celle d'un peuple uni en Jésus-Christ, uni dans sa diversité. Non pas une communauté angélique et parfaite, mais qui soit plus fraternelle, plus solidaire, où chacun et chacune soit reconnu, où nul ne serait méprisé ou écrasé, et qui rayonnerait alors d'amour autour d'elle, dans l'unité et la solidarité, qui serait contagieuse pour l'humanité universelle. Que ce même esprit nous habite chacun, nous fortifie et nous dirige dans cette voie qui est, somme toute, encore une fois, celle de l'amour. Et comme dit l'évangile de Jean, dans la bouche de Jean-Baptiste qui parle de Jésus, il faut que ce Jésus prenne de plus en plus de place en vous et que moi, j'en prenne de moins en moins. Que nous puissions, cher Paul, te prendre au sérieux chaque fois que nous constatons que nous vivons encore sous un régime de discrimination. Nous devrions nous dire que nos façons de faire sont périmées, parce que, depuis notre baptême, nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Pour l'éternité, Seigneur, que ton peuple soit un et fidèle. Amen.